cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 8 novembre 1995.
Juger, c'est le jugement pratique de ceux qui exercent. qui est admis ouvertement. Oui, c'est là. Alors donc, distinguez bien différentes manières d'être engagé. Pour avoir un jugement de sagesse sur l'homme, il faut vivre de la finalité. Je recherche la vérité. Si j'ai un désir très grand de contempler le mystère du Créateur et de contempler et de juger dans cette lumière ce qu'il y a d'humain sur l'imago Dei, l'image de Dieu, ça je peux le faire. C'est un jugement pratique qui implique un engagement. Je suis engagé dans ma vie chrétiennement. Cet engagement chrétien implique un engagement humain. Je ne peux pas m'engager dans toutes les communautés, mais je peux, à la lumière de mon engagement chrétien, de mon engagement humain, comprendre ce qu'il y a d'humain et ce qui est contraire à l'humain. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut juger de la valeur humaine d'une secte ou de la non-valeur humaine d'une secte sans être engagé dans cette secte, mais en étant engagé dans une finalité humaine que je pense être la plus parfaite. Mon engagement chrétien implique que je suis persuadé dans ma foi chrétienne que ma foi chrétienne permet le développement le plus humain de l'homme. Si j'étais persuadé, étant engagé dans mon engagement chrétien, qu'il y a une autre communauté bouddhiste à côté qui me permettrait un engagement humain plus parfait que celui-là, je ne pourrais pas rester dans l'engagement chrétien sans commettre une grave erreur. Humain consiste à choisir ce qui me semble être le plus parfait pour le développement de l'homme. Vous voyez ? Et là, c'est un engagement qui me permet d'avoir un jugement objectif dans la lumière de la finalité de l'homme. Et c'est ce que nous essayons de faire quand nous voyons ces différents niveaux éthiques. Je sais très bien que le niveau éthique fondamental ne me donne pas le dernier jugement, mais me donne un jugement intéressant. Le jugement de l'éthique religieuse va plus loin, et le jugement de l'éthique chrétienne va plus loin encore. Et j'atteins le sommet. J'en suis persuadé si je suis chrétien. Je suis persuadé, si je suis chrétien, qu'aucun homme n'est aussi parfait que Jésus. Et donc, ce que Jésus dit comme déclaration sur ce qu'est la vie chrétienne, c'est ce qu'il y a de plus parfait pour l'homme. Un non-chrétien pourra dire l'inverse. C'est évident. Un bouddhiste dira, oh non, il exagère, Jésus. Ça ne peut pas être un modèle. Il est Dieu. Donc il ne peut pas être modèle. Je ne dirais pas du tout. Celui qui est plus grand peut me donner un modèle humain. Même s'il est plus grand qu'un homme. Il respecte parfaitement ce qu'est l'homme. Et c'est donc, c'est très vrai de dire que le engagé dans une communauté. Vous voyez, je prends cet exemple qui m'avait beaucoup frappé. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est important d'y réfléchir. C'était le dialogue avec les psychanalystes freudiens. Ils m'ont dit que dans toute psychanalyse, quand le patient est sur un divan, il y a un moment où il pose la question « Docteur, croyez-vous en l'homme ?» Je trouve ça assez poignant, du reste. C'est le moment crucial. Il ne comprend rien. La tentation, c'est de ne plus croire en l'homme. Tout homme est menteur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Ah, on se tait. Il faut respecter la méthode. Alors je suis entré dans une sainte colère. Je dis, est-ce que le salut de l'homme n'est-il pas plus qu'une méthode ? Si grande qu'elle soit, si belle qu'elle soit, la méthode est faite par l'homme. Elle peut être très intéressante pour gagner du temps.
J'ai eu exactement l'impression que vous donniez comme image. Il se précipitait sur cette
principe de ce qu'on appelle un dilettante. Il ne s'engage jamais. Un dilettante n'est pas un témoin. Et celui qui est dilettante dans toute sa vie humaine n'est plus un témoin humain pour aider ses frères. Parce que il va selon le gré des flots. Il est à droite avec quelqu'un qui est à droite, il est à gauche avec celui qui est à gauche, il est au centre avec celui qui est au centre, et il vole n'importe comment. Dilettante. Le dilettante, c'est un spectateur universel pour tout. Celui qui est engagé dans sa vie, c'est un autre engagement. C'est un autre engagement. Celui qui est chrétien, il a son engagement. Mais cet engagement chrétien implique un engagement humain. Je suis conscient, étant chrétien, d'être engagé à la suite du Christ. Suivre l'agneau partout où il va. Et je sais que s'engager de cette manière-là, ça implique un engagement humain. Et ça implique un engagement humain supérieur à tous les autres engagements. Et donc, à ce moment-là, le chrétien qui vit cet engagement peut comprendre tous les autres engagements et voir leur caractère relatif et voir exactement à quel niveau se situe cet engagement. Et je crois que c'est ça, l'éthique chrétienne. Alors, on va entrer dans l'éthique chrétienne, vous voyez. Alors, quelques petites remarques importante pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. C'est quand même très important de voir ça. Premièrement, l'éthique chrétienne que nous voyons maintenant, que nous essayons de voir maintenant, c'est ce que je cherche avec vous. Je ne peux me référer à aucun livre. J'essaie de l'élaborer. Et vous aussi, on essaie ensemble de le voir. Donc là, il faut être très attentif. Et si vous avez d'autres pistes, vous les notez et vous les communiquez. Et on les fait ensemble. Ça devrait se faire comme un séminaire, vous voyez ça? Puisque c'est une recherche. Et une recherche. Autant, j'ai une certitude philosophique sur ce que je vous ai dit sur l'étude fondamentalement humaine. Et je vous ai dit que s'il y en avait qui n'étaient pas d'accord, qu'ils aient le courage de le dire. C'est important. Que l'amitié est l'expérience type de l'éthique fondamentalement humaine. Alors, pas nécessairement une amitié, l'amitié. Dans ce cas-là, à la fois de très simple. Les gens simples ont des amitiés. Ce sont les intellectuels fatigués qui ne l'ont plus. Alors ça, oui, ça, c'est le signe de la fatigue intellectuelle et de la fatigue humaine. Alors, ils sont dilettantes. Et le dilettante n'a pas d'amitié. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait plus ce que c'est que l'amour. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'amour ne peut pas faire d'éthique. Ne peut pas avoir une réflexion éthique. C'est impossible. Mais s'il n'a pas l'expérience, alors il pourra étudier historiquement le stoïcisme, l'épicurisme, très très bien, mais il ne fera pas une philosophie. Il fera l'histoire de l'éthique. Une topique de l'éthique. C'est très intéressant. Et c'est pas ça qu'on cherche. Ici, nous cherchons à être philosophes. C'est-à-dire à découvrir ce qu'est la personne humaine. En définitive, c'est ça. Alors, là, on peut avoir une certitude. On doit même philosophiquement avoir une certitude pratique. Pas spéculative, mais pratique. Comme j'ai une certitude que toute la philosophie réaliste repose sur le jugement d'existence. Là, j'ai une certitude spéculative. Ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils aient le courage de chercher pourquoi ils ne le sont pas. opinion est tellement forte que tous les dilettantes sont derrière, se croyant toujours dilettantes. Et en réalité, ils sont menés. Ils sont mus. Ils sont plus libres. Pour l'éthique religieuse aussi. Pour l'éthique dite chrétienne, on est devant un
humaine et de
philosophique, de la recherche théologique. Et je dois bien faire cette distinction. Ça ne vole pas du tout au même niveau. Par la foi, je vole à tel niveau, puisque je suis dans la lumière de Dieu. Par la philosophie, je vole au niveau de mes expériences et de mes inductions. Et je n'ai pas de limite de mes expériences. Ces expériences typiquement humaines, je dois les voir, les comprendre. Donc, première chose, bien distinguer les deux. Alors, comme vous n'avez pas fait beaucoup, du moins la plupart d'entre vous n'ont pas fait beaucoup de théologie, c'est pas toujours commode, hein. Mais petit à petit, on verra. Si on voit bien le point de départ, on peut s'en tirer. C'est suffisant. Le philosophe part de l'expérience humaine. Le théologien part de la foi. Or, on peut tous distinguer, si on est croyant, on peut tous distinguer l'adhésion de foi de l'expérience humaine. Si vous n'arrivez pas à faire cette distinction, ça prouve que votre foi est encore trop flottante. Elle est entre les deux. Et donc, essayez d'avoir une foi qui soit plus lucide. Et ça, c'est bon. C'est un avantage pour tout le monde. Et pour vous, en premier lieu. C'est vrai, il faut être lucide dans sa foi. Quand je fais un acte de foi, je sais que je fais un acte de foi. Et je sais quand je fais une expérience humaine qui peut m'aider du point de vue de la philosophie, je suis en philosophie. Ça me gêne pas d'être croyant et d'être philosophe. Ça me gêne absolument pas. Ça m'intéresse au contraire beaucoup. Et d'une certaine manière, creuser la philosophie en étant croyant me permet de mieux comprendre ce que c'est que d'être croyant, d'avoir une lucidité plus grande. Thomas d'Aquin l'a fait admirablement dans le Contrat Gentiles. Et le Contrat Gentiles est un livre extrêmement important pour comprendre Thomas d'Aquin, puisque c'est un livre qui se situe un peu comme intermédiaire entre le point de départ de Thomas d'Aquin et son terme. Je crois que le Contrat Gentiles a joué un rôle très important dans la somme théologique. Que le Contrat Gentiles a joué un rôle très important dans l'approfondissement de Thomas d'Aquin. Et donc, pour nous, si nous voulons être à l'école de Thomas d'Aquin au point de vue théologique, c'est très important qu'en faisant de la philosophie et étant croyant, nous fassions bien la distinction. Alors, je ne vous demande pas de lire tous le Contrat Gentiles dès la première année, parce que ce serait un petit peu difficile. Mais, quand même, de le regarder. Et quand on est en seconde et troisième année, c'est bon de lire le Contrat Gentiles de Thomas d'Aquin. C'est un livre intelligent. Si c'est un livre intelligent, c'est bien de le lire. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu lis un livre intelligent, tu deviens intelligent. Tu lis un roman policier, tu deviens un roman policier. Et ça ne va pas très loin, quoique c'est très astucieux. Mais c'est de l'ordre de l'astuce, vous voyez. Mais c'est pas de l'ordre de l'intelligent, c'est différent. C'est apprendre à dénouer des nœuds. Des nœuds d'ordre pratique, des situations difficiles. Où se trouve le criminel? Parce qu'elle est bien déguisée. Où se trouve le crime? C'est intéressant. Comment peut-on le dépister? Donc, premièrement, première affirmation, celle-là. Deuxième affirmation. Est-ce que c'est possible de parler d'une philosophie chrétienne en restant philosophie? C'est-à-dire en partant de l'expérience. Je dis oui. Au point de vue éthique, je dis non au point de vue métaphysique. Ça va vous aider à comprendre comment c'est possible. exemples dans la philosophie, de philosophie chrétienne. Prenez un Bergson dans les deux sources de la morale. Il reconnaît qu'il y a de fait des mystiques dans les diverses religions. Reconnaissant qu'il y a des mystiques dans les diverses religions, il reconnaît qu'il peut y avoir des surhommes, des hommes qui ont comme une dimension particulière, et qu'on trouve ça dans les diverses religions. Je peux comparer ces surhommes dans les diverses religions et voir que le mystique chrétien apparaît comme celui qui va le plus loin et celui qui demeure le plus concret. Juste. Et donc que le mystique chrétien, c'est le mystique par excellence. Signal d'alarme. Vous voyez, c'est intéressant comme signal d'alarme. Autrement dit, la sainteté en terre chrétienne apparaît aux yeux du philosophe comme la sainteté la plus parfaite. Autant qu'il peut le juger, hein, vous voyez. C'est-à-dire, alors, prenons bien les critères. Quel sera le critère du philosophe? Il verra dans la sainteté du chrétien un développement de l'homme le plus parfait. Il ne peut pas juger de la sainteté autrement qu'en philosophe. Et en philosophe, il ne peut juger de la sainteté que par rapport au développement de l'homme. Un saint, une sainte, comme Sainte Thérèse, comme Saint Jean de la Croix, apparaissent comme des personnes humaines dans lesquelles le développement humain va très loin. Et vous voyez, c'est du côté humain, c'est ça qui est intéressant à voir. Et c'est là où on voit que le philosophe a quelque chose à regarder. Qu'il peut y avoir de l'héroïsme chez des non-chrétiens. Il y en a eu dans l'Antiquité. Socrate est héroïque. Il peut y avoir un héroïsme en terre chrétienne. Et que l'héroïsme en terre chrétienne est plus fréquent qu'en terre païenne. Et que, en terre chrétienne, c'est ordinairement ce que Bergson a l'air de dire. C'est dans le catholicisme que l'héroïsme et la sainteté apparaissent la plus fréquente. Et ça, c'est le raisonnement de Bergson. Pour dire, bon, je vois que c'est vraiment la tradition chrétienne catholique qui me met en présence de la sainteté la plus parfaite. Que c'est là où je vois que l'homme chrétien catholique atteint quelque chose de plus profond qui lui permet d'être plus homme les autres. C'est intéressant de voir que ça existe. Qu'on soit d'accord avec personne ou pas d'accord avec personne, c'est autre chose. Mais c'est intéressant de voir que ça existe. C'est intéressant de voir quelque chose d'analogue avec ce que dit Aristote dans l'Éthique à propos de la contemplation. Il voit que la contemplation philosophique et comme un dépassement de la philosophie pour saisir dans l'homme ce qu'il y a de divin. Et c'est vrai, l'éthique par elle-même n'est pas contemplative. L'éthique doit conduire à la contemplation. Mais quand je suis dans la contemplation, c'est un au-delà de l'éthique. Et cet au-delà de l'éthique dire un surhomme. Il dépasse le point de vue de la prudence habituelle, qui est la sagesse humaine. Il dépasse ce que l'homme peut chercher selon ses forces, selon ses capacités. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose d'analogue. C'est pas la même chose, c'est sûr. Puisque du côté de la sainteté, je sais, et tous les saints le disent, ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils y arrivent, c'est par le secours de l'Esprit Saint. Tandis que la contemplation, c'est par lui-même que le philosophe devient contemplatif. Et Aristote dit, et ça c'est aussi très intéressant comme jugement de sagesse, la contemplation doit être aimée d'une manière très particulière par Dieu, puisque ça développe en nous ce qu'il y a de plus proche de Dieu. Et donc il doit y avoir des préférences de Dieu vis-à-vis des contemplatifs. Ce qui fait que dans le gouvernement divin, Dieu gouverne l'humanité par la tête, par les contemplatifs. C'est très beau de voir que quelqu'un qui n'a pas la foi reconnaît cela. Et c'est intéressant parce que ça montre un au-delà de l'éthique, un dépassement de l'éthique, la contemplation. Et on voit bien que si je veux regarder cette contemplation pour elle-même, à la manière de Plotin, alors j'idéalise et je n'ai plus une véritable éthique. Ça, c'est très intéressant comme procédé. Vous voyez, Aristote étudie la contemplation à partir de la morale, mais comme un dépassement de la morale. Plotin regarde la contemplation en elle-même. Et à ce moment-là, il sépare la contemplation de l'activité morale. Il se trouve dans une impasse. Parce que on a comme une activité supra-humaine séparée de l'activité morale. On tombe dans une sorte d'illuminisme. Je peux à ce moment-là, devant ces exemples, essayer de comprendre quel sera le statut d'une philosophie qui étudie en éthique le point de vue de l'éthique chrétienne. Je vois tout de suite, et je dois tout de suite le préciser, qu'il ne peut pas y avoir une métaphysique dite chrétienne. Pourquoi ? Parce que la métaphysique étudie ce qui est en tant qu'il est. C'est-à-dire étudie l'être comme ce qu'il y a de premier dans toutes mes expériences, ce qu'il y a de fondamental, ce qu'il y a de commun dans toutes mes expériences philosophiques. Et j'essaie de comprendre ce qu'est l'être en lui-même. Or, la grâce chrétienne, toute la théologie chrétienne le dit, elle présuppose la nature. Elle est donnée à quelqu'un qui existe déjà. Donc la grâce chrétienne n'est pas première dans l'ordre de l'être. Elle est un surêtre. Présuppose l'être. Donc, l'être, au plan métaphysique, demeure ce qu'il est chez le chrétien. Et le chrétien ne pourra étudier vraiment ce qu'est sa vie chrétienne dans ce qu'elle a de propre, non pas du côté de l'être, mais du côté de la vie. Alors ce sera intéressant de savoir s'il y a une philosophie de vie chrétienne. Ce serait très intéressant, puisqu'au fond, je constate qu'il n'y a pas d'être chrétien, de substance chrétienne par la grâce, que la grâce grâce présuppose la nature et présuppose fondamentalement l'être métaphysique. Mais si je dis qu'il y a une vie chrétienne, y a-t-il une philosophie chrétienne de la vie? Et je dis non. Pourquoi? Parce que l'expérience que j'ai de la vie n'est pas premièrement chrétienne. La vie chrétienne se fonde sur la foi qui ne me donne pas l'évidence. Si la vie chrétienne se fonde sur la foi qui n'a pas l'évidence, je n'ai donc pas une expérience nouvelle, philosophique, de la vie chrétienne. Je suis dans l'obscurité de la foi. Tandis qu'il y a une éthique chrétienne, parce qu'il m'est donné une nouvelle finalité, un nouvel amour. Et j'ai l'expérience de cette finalité qui me dépasse, qui me transcende. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une éthique dite chrétienne, tandis qu'il n'y a pas de philosophie spéculative dite chrétienne. Et c'est assez délicat, ça. Et je crois que c'est très important de bien le saisir. Alors, on verra comment cette philosophie
Oh.